Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et des finances. On prend la direction de l'Inde, qui est l'un des plus grands exportateurs de riz au monde. Il a restreint, justement, ce gouvernement indien, il a restreint ses exportations de cette denrée absolument essentielle, ce qui a eu un effet mécanique de faire grimper les prix. Décision visant à assurer la sécurité alimentaire intérieure de l'Inde dans un contexte de production qui est rendu incertain par des conditions météorologiques qui sont défavorables. Les prévisions du Fonds monétaire international pour la zone MENA, Moyen-Orient, Maghreb, le FMI abaisse ses prévisions de croissance à 4,1% pour 2024. Ces prévisions de croissance initiales étaient à 4,5%. Alors comment peut-on s'expliquer? Mais en fait, on revient toujours de façon assez lancinante et récurrente. On revient toujours sur les causes exogènes à la zone MENA, à savoir l'Ukraine et puis le resserrement des politiques monétaires pour les banques centrales, avec toujours côté américain la volonté de la Fed d'être tout à fait rigoureuse de telle façon à ce que l'inflation puisse être contrôlée aux États-Unis. En plus, il y a toujours ce lien entre la Fed et la Maison Blanche. Nous sommes en campagne électorale aux États-Unis et le gouvernement, l'administration Biden ne veut pas avoir d'inflation trop significative parce qu'il y a cet enjeu de la réélection, avec cette semaine un débat qui a eu lieu entre Trump et Biden, premier grand débat politique. Les questions économiques ont été abordées sous l'angle de l'immigration et du coût économique de la migration. Les prix du pétrole, finalement, ils sont plutôt sur une tendance assez stable, en tout cas pour ce qui est des derniers jours, autour de 100 dollars le baril. Cela est dû à l'équilibre entre les préoccupations qui sont liées donc au ralentissement économique mondial et puis quand même la demande qui est très soutenue de la part des pays asiatiques. Alors les prix du pétrole, les oscillations qui nous inquiètent toujours, nous qui pouvons aller potentiellement à la pompe faire le plein d'essence pour la voiture. On va en parler avec Francis Perrin, notre consultant. D'abord, merci beaucoup Francis d'être avec nous dans cette émission Economia. Peut-être Francis Perrin, nous rappeler aujourd'hui les oscillations du prix du pétrole. Quel diagnostic, quelle analyse en faites-vous?
Si l'on regarde l'évolution récente des prix du pétrole brut, donc en général on fait référence à des prix de référence comme le pétrole Brent en Europe, le West Texas Intermediate aux États-Unis. Les tendances sont les mêmes. On s'aperçoit que les prix du pétrole sont à nouveau orientés à la hausse depuis le début juin, donc depuis une vingtaine de jours, après une forte baisse pendant plusieurs semaines. On est aujourd'hui, au moment où nous parlons, pour le pétrole Brent de la mer du Nord, entre 85 et 86 dollars par baril, ce qui est pas mal évidemment pour les pays producteurs et exportateurs de pétrole et pour les compagnies pétrolières. C'est un petit peu moins bon, bien sûr, pour les importateurs et consommateurs de pétrole. Alors qu'est-ce qui fait que nous avons cette hausse des prix depuis le début juin? La géopolitique est un élément de l'explication, pour revenir à votre question. Et dans cette géopolitique, il y a deux événements majeurs, la guerre à Gaza et la guerre en Ukraine, qui sont majeurs en général et qui sont majeurs aussi pour les impacts pétroliers. Depuis quelques semaines, sur les marchés pétroliers, les traders et les spéculateurs regardent de très près ce qui se passe à Gaza, ou plutôt autour de Gaza.
C'est-à-dire, géographiquement, autour de Gaza, c'est quelle zone?
Alors, très précisément, la montée des tensions entre l'État d'Israël et le Hezbollah au Liban.
D'accord.
Et on craint, sur les marchés pétroliers, le fait que la guerre à Gaza débouche sur un autre front que celui qui est à Gaza spécifiquement, entre Israël et le Hamas, donc au nord de l'État d'Israël, au sud du Liban, entre Israël et le Hezbollah. Il y a évidemment des frappes quotidiennes entre Israël et le Hezbollah depuis octobre 2023, mais on craint qu'on monte en puissance.
Oui, mais
est-ce qu'il fallait faire un conflit ouvert, ce qui tend les prix du pétrole à la hausse?
Francis Perrin, si demain on a une augmentation significative de la conflictualité entre Israël et le Hezbollah, ça n'impacte pas directement la production en Asie, en Afrique, dans le Golfe, ça n'impacte pas directement les sites de production et le cycle vente-achat. Pourquoi c'est toujours cette question en fait qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le fait qu'il y ait une tension conflictuelle en un lieu donné de la planète, soudainement ça a un effet levier sur les prix?
Vous avez tout à fait raison, il faut expliciter ce point. Alors, deux éléments de réponse. Le premier, c'est que le marché pétrolier est un marché mondial. Donc, ce qui se passe quelque part peut, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais peut affecter l'ensemble du marché. Deuxième élément, Gaza, Liban, Israël, nous sommes au Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, c'est là où il y a le plus de pétrole dans le monde. On estime que le Moyen-Orient dans son ensemble contrôle à peu près 50% des réserves prouvées mondiales de pétrole, ce qui est unique au monde. Je prends un autre exemple. Nous avons une guerre en Birmanie. Personne n'en parle.
Ça
n'a
bien
aucun
sûr.
Impact sur les marchés pétroliers, parce qu'il n'y a pas de rapport entre la guerre en Birmanie, la Birmanie, le Myanmar, les prix du pétrole. Mais quand nous sommes par rapport à Gaza, ou autour de Gaza, nous sommes au Moyen-Orient, et même s'il n'y a pas de pétrole à Gaza, pas de pétrole en Israël, pas de pétrole au Liban, il y en a plein au Moyen-Orient, c'est à côté. Donc les marchés redoutent l'extension de la guerre à Gaza, à d'autres zones du Moyen-Orient, et le Moyen-Orient est une éponge à pétrole, et à ce moment-là, on se dit, oulala, des installations pétrolières pourraient être touchées, la production du Moyen-Orient pourrait baisser, les exportations pétrolières à partir du Moyen-Orient pourraient baisser, des navires pétroliers encore pourraient être attaqués, c'est déjà en partie le cas,
bien sûr,
côté sud, avec Yémen, Mer Rouge, Houthi, etc. Et donc, c'est un élément qui pousse les prix à la hausse depuis le début juin. Et un autre élément géopolitique toujours, la guerre en Ukraine. Alors, celle-ci dure depuis le 24 février 2022, c'est pas nouveau, c'est encore moins nouveau que Gaza. Mais qu'est-ce qui se passe depuis le début de l'année? Les Ukrainiens visent certaines cibles pétrolières en Russie.
D'accord.
Sur le territoire même de la Russie, avec des drones ou des missiles, drones et missiles ukrainiens. Et qu'est-ce qu'ils visent? Des raffineries en Russie, des centres de stockage pétrolier en Russie, des terminaux d'exportation en Russie. Et dans ces trois cibles, les raffineries sont leurs cibles privilégiées, et elles viennent encore de le faire dans les derniers jours, et ils le font depuis plusieurs semaines, et cela inquiète aussi les marchés pétroliers, d'où cette remontée des prix depuis le début juin, tirée en partie par Gaza et scénario d'extension autour de la guerre à Gaza, et Ukraine avec à nouveau des cibles pétrolières russes dans la guerre en Ukraine, visées par l'armée ukrainienne.
On a beaucoup parlé de la présence houthi maritime qui a amené la réouverture d'anciennes voies qui contournent via le Grand Sud, via l'Afrique du Sud, qui contournent cet axe, hein, mer Rouge, golfe Persique. On a quand même un factuel qui est assez préoccupant. C'est-à-dire on se rend compte que les attaques houthi, elles n'ont quasiment pas baissé en intensité. Est-ce à dire qu'on est dans une sorte de la routine de la guerre? Enfin, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe dans cette région du monde, sur ces deux zones maritimes.
Vous avez raison de souligner cette ambivalence. Vous dites d'un côté, c'est incroyable, et c'est vrai. Et vous ajoutez, est-ce que ce n'est pas la routine de la guerre? Et c'est vrai également. Les deux sont vrais en même temps. Il n'est quand même pas fréquent qu'un groupe politique s'en prenne au commerce maritime mondial à partir d'une route essentielle qui est océan Indien, golfe d'Aden, détroit de Bab-el-Mandeb, mer Rouge, canal de Suez, Méditerranée. Donc la principale route maritime, la plus rapide, pour aller de l'Asie du Moyen-Orient vers l'Europe, dans le sens sud-nord, et de l'Europe vers l'Asie dans le sens nord-sud. Et ça a commencé dans la deuxième quinzaine de novembre 2023. Les premières attaques des Houthis contre les navires. Et depuis, c'est quasiment quotidien. Malgré deux opérations maritimes occidentales, l'une s'appelle Gardien de la prospérité. Et elle a commencé en décembre 2023. Et le chef de file, c'est les États-Unis. Et un peu après, Aspides, opération Union européenne, depuis février 2024. Alors, il ne faut pas en déduire que ces deux opérations ne servent à rien.
D'accord.
Sans ces deux opérations,
ce serait pire.
Il y aurait beaucoup plus. Ce serait là, très, très fortement pire.
D'accord.
Il y aurait eu beaucoup plus d'attaques. Il y aurait beaucoup plus de navires touchés.
Et donc, les prix seraient encore plus hauts.
De navires coulés. Et beaucoup plus de dommages humains, les marins de ces navires, blessés ou tués. Donc, ces deux opérations ont leur utilité en termes défensifs, ont détruit un grand nombre de missiles et de drones lancés par les Houthis depuis le Yémen contre des navires marchands, notamment en mer Rouge. Mais ces deux opérations n'ont pas été suffisantes à ce jour pour empêcher les Houthis de continuer à viser des navires marchands, ce qui a entraîné un détournement évidemment de trafic maritime. Certaines compagnies maritimes se disent c'est trop risqué, donc on va faire le grand tour en passant au sud de l'Afrique du Sud pour rentrer ensuite en Méditerranée. À côté de l'Afrique du Nord, ce qui allonge les trajets, ça dépend de la vitesse du navire, disons de 12-15 jours, ce qui augmente les coûts d'exploitation, ce qui augmente les coûts de carburant, évidemment, et ce qui peut entraîner des retards dans des chaînes de valeur mondialisées. D'autres navires continuent à essayer de passer à travers la route risquée, en disant, puisqu'il y a gardien de la prospérité des États-Unis, puisqu'il y a Aspides, je vais tenter ma chance, je prends mon risque, et certains navires passent sans difficulté, mais en étant protégés. D'autres sont touchés légèrement, d'autres sont visés mais pas touchés, d'autres sont touchés légèrement et continuent, d'autres sont touchés plus gravement, et parfois un navire coule, c'est arrivé, des marins sont tués, c'est arrivé.
Je sais que vous ne lisez pas dans une boule de cristal, Francis Perrin, mais ce n'est pas du tout une question ironique ou autre, hein, mais parfois on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter la planète Terre, parce que là, on est bien sur une échelle mondiale, accepter que c'est comme si demain, heureusement ce n'est pas le cas, c'est comme si demain sur Panama, vous aviez des tribus indiennes de l'Amazonie qui disaient, maintenant tout ce qui passe, on le coule. Il y a un moment donné, c'est pas possible, tout simplement.
Alors, d'où ces deux opérations, d'abord américaines, qui est toujours là, puis européennes deux mois après, et puis aussi, parce que là, on est sur des opérations qui sont défensives. D'accord. Dans les deux cas, on n'attaque pas les outils au Yémen, on essaie de détruire les drones et les missiles qu'ils lancent contre des navires marchands. Mais par ailleurs, américains et britanniques, eux, sont passés à l'offensive au Yémen depuis janvier 2024, en frappant à plusieurs reprises, des rampes de lancement au Yémen, des centres de commandement et de contrôle dans la zone des Yémen occupée par les Houthis, des usines dans lesquelles on répare ou on fabrique des missiles et des drones. Donc il y a deux aspects dans la réponse occidentale, une réponse purement défensive, une principalement américaine, l'autre Union européenne, et puis américains et britanniques qui sont passés à l'offensive, puisque comme on dit souvent, dans le militaire comme dans le sport, la meilleure défensive, c'est l'offensive.
Bien sûr.
Donc on a tout ça. D'accord. Mais tout ceci n'a pas été, et volontairement, d'une ampleur suffisante pour détruire complètement la capacité des outils à menacer des navires marchands. Par contre, cela a permis de faire en sorte que cela soit, je vais employer un terme qui peut paraître curieux, que cela soit, je dirais, acceptable, dans l'inacceptable, qu'on se dise, bon, ça ne perturbe quand même pas trop le commerce, parce que soit il y a des navires qui passent par cette route-là sans dommage ou sans trop de dommages, soit les autres font le grand tour en passant au sud de l'Afrique du Sud et en remontant toute la côte occidentale de l'Afrique, et donc on a des retards, on a des coûts supplémentaires, mais on peut vivre avec cela, vivre économiquement parlant, évidemment. Pour l'instant, le commerce maritime mondial n'a pas été complètement déstabilisé, mais il est fragilisé, il est à risque, et à votre question, pendant combien de temps, la réponse des outils est claire, tant que la guerre à Gaza durera, et tout récemment d'ailleurs, les responsables américains ont admis à Washington qu'il est effectivement probable que tant que la guerre à Gaza durerait, ils auraient à faire face, notamment en mer Rouge, avec l'opération militaire monte comme gardien de la prospérité, et avec des frappes offensives à la menace des outils, donc probablement encore pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, comme vous disiez, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas pendant combien de temps, mais ce n'est pas fini pour tout de suite.
Mais est-ce que cette géopolitique que vous nous décrivez, est-ce que cela affecte ou pas les travaux d'exploration? Alors, on sait que la Terre a été ou combien de fois étudiée pour essayer d'y déceler des réserves de pétrole, mais est-ce que toutes les activités antérieures à l'exploitation proprement dite de région, est-ce que ces activités aujourd'hui sont gênées, sont freinées, sont ralenties dans le monde arabe principalement, ou est-ce que finalement les compagnies pétrolières, qui sont quand même habituées à travailler dans des contextes géopolitiques difficiles, est-ce que malgré tout elles continuent, elles arrivent à travailler?
Je vais répondre à votre question, oui.
Et non.
Elles continuent à travailler.
Ouais.
Et je vais ajouter, pour l'instant.
D'accord, oui.
Ce qui, lorsque nous parlons de questions géopolitiques, est toujours essentiel, parce que nous n'avons pas les moyens de prédire l'avenir. Ce que l'on peut constater, c'est que depuis le 7 octobre 2023, dans cette région clé du Moyen-Orient, pour le pétrole et pour le gaz naturel, les deux hydrocarbures, parce que cette région, elle contrôle à peu près 40% des réserves prouvées mondiales de gaz naturel. est le numéro 1 pour les réserves prouvées de pétrole, énergie numéro 1 dans le monde, et pour les réserves prouvées de gaz naturel, énergie numéro 3. Donc elle est doublement stratégique. Pour ces deux activités qui impliquent un même acteur industriel qu'on appelle une compagnie pétrolière, qui est aussi une compagnie pétrolière et gazière, elles le sont toutes, le travail continue, je dirais pas tout à fait business as usual dans ce contexte, évidemment, bien sûr, mais le travail continue, l'exploration continue, les développements pétroliers et gaziers continuent, l'exploitation pétrolière et gazière continue, les exportations pétrolières et gazières continuent, pas tout à fait comme si de rien n'était, évidemment, ces acteurs sont très sensibles et très habitués aux risques géopolitiques, donc trouvent les moyens de le contourner, de le gérer, de se faire protéger, ce que nous évoquions dans les minutes précédentes de notre entretien, mais cela continue, et à ce jour, et je reviens encore sur cette expression que je vais souligner de trois traits en rouge, à ce jour, la production pétrolière du Moyen-Orient n'a pas baissé du fait de la guerre à Gaza et de tout ce qu'elle entraîne dans la région, et les exportations pétrolières du Moyen-Orient n'ont pas baissé en dépit de la guerre à Gaza et de l'extension de ce conflit dans certaines zones du Moyen-Orient. Mais pour l'instant.
Oui, c'est tout à fait. Vous avez parfaitement raison d'inclure cet élément temporel. Alors, il y en a un autre, un élément temporel qui est sur le moyen et le court et le long terme, pardonnez-moi, c'est celui de la transition énergétique, sachant qu'il est admis que le pétrole existe et il existera à l'avenir. Simplement, il va y avoir une diversification des énergies sur notre planète bleue, qui, on l'espère, va rester bleue le plus longtemps possible, parce que on sait ce que sont les affres de la pollution. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays arabes ont entamé, alors dans leur diversité, hein, parce qu'on peut pas comparer les pays du Golfe, par exemple, à des économies pétrolières comme par exemple l'Algérie ou même la Tunisie, d'ailleurs, aussi, qui produit un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, une photographie, Francis Perrin, de ce monde arabe qui a des difficultés, des défis géopolitiques, géostratégiques aujourd'hui, ça, c'est une chose. Et autre élément additionnel qui est celui de la transition énergétique. Est-ce que les travaux ont commencé sur l'ensemble des pays du monde arabe pour rentrer dans cette nouvelle ère de, peut-être pas l'après fossile, mais en tout cas avec moins de fossiles et plus de diversité de sources d'énergie?
Une diversification a commencé dans le monde arabe, mais de façon très inégale selon les pays. Ce n'est pas, on n'avance pas du même pas, au même rythme, avec la même ampleur, loin de là. Dans les pays arabes d'Afrique du Nord, donc nous avons trois producteurs importants d'hydrocarbures dans cette région, c'est Algérie, Égypte, Libye, par ordre alphabétique, Tunisie, Maroc, Tunisie c'est très peu, Maroc c'est encore moins, mais si on prend ces trois producteurs importants et exportateurs de pétrole et de gaz, les deux, Algérie et Égypte, ont entamé des stratégies de diversification énergétique. La Libye, pas du tout, pour une raison très simple,
c'est la guerre.
La Libye est en guerre, et donc évidemment, la diversification énergétique par rapport à la transition, c'est pas la première priorité, c'est leur 50e priorité, et encore. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en s'en occuperont pas quand le pays sera à nouveau pacifié. Mais la guerre dure depuis 2011 et nous sommes en 2024, donc là encore, je ne ferai pas de pronostic. Mais Algérie et Égypte, qui ont la chance d'être deux pays en paix, ont évidemment la possibilité d'avoir plus une vision à long terme et de préparer une diversification énergétique. Et qu'est-ce qu'on ferait monter en puissance? Énergie renouvelable, avec une dominante solaire pour des raisons
évidentes, bien sûr.
Taux d'ensoleillement exceptionnel, des zones désertiques, donc on a aussi la surface, parce que le solaire, ça occupe beaucoup d'espace, les renouvelables, beaucoup d'espace au sol, donc là, pour ces pays-là, c'est pas un problème. Électricité, hydrogène.
D'accord.
Et puis au Moyen-Orient, cette diversification, elle est en route, elle est en marche, mais principalement dans les pays arabes de la région du Golfe.
D'accord.
Émirats arabes unis, Qatar, Oman, Arabie saoudite.
Oui. Les mastodontes, en fait.
En Iran et en Irak, par exemple. Qui sont aussi des mastodontes pétroliers, et pour l'Iran, pétroliers et gaziers. Mais c'est vraiment les pays arabes du Golfe, le Koweït moins, un petit peu aussi, mais surtout Émirats arabes unis, Qatar, Oman, Arabie saoudite, qui sont en pointe dans ce domaine-là. Et avec, je dirais, deux types de diversification. Une diversification énergétique. On ne met pas à la poubelle le pétrole et le gaz. Ça va rester important pendant très longtemps. Et c'est ce qui finance cette diversification. Donc, on ne va pas tuer la poule aux œufs d'or. Parce que comment on se diversifie? C'est-à-dire qu'il faut investir beaucoup d'argent dans différents secteurs de l'économie. D'où vient l'argent? pas du ciel, du sous-sol, du pétrole et du gaz. Donc on continue, mais on élargit le spectre énergétique. Renouvelable, dominante solaire, dans certains cas énergie nucléaire, hydrogène à plus long terme.
Mais Francis Perrin, est-ce que ça marche tout ça ? C'est-à-dire que, est-ce que on est sur... Alors après, il ne faut pas non plus pêcher par excès de, comment dire, d'impatience, mais toutes ces initiatives... on est sur des terrains que l'on défriche, parce que le solaire, on connaît quand même depuis assez longtemps. On est sur des phases de démarrage, ou est-ce que la diversification, c'est une réalité à la production et
c'est
à la consommation ?
C'est une réalité, mais évidemment, ce n'est pas une réalité qui existe depuis 50 ans.
Oui, c'est très récent, bien sûr.
C'est une réalité récente, mais une réalité en termes de projet industriel. Et le pays le plus avancé dans ce domaine-là, c'est les Émirats Arabes Unis.
D'accord.
En termes notamment de projets solaires et de projets en fonctionnement. Alors, il y a des projets en développement, en construction, mais des projets en exploitation, ça existe. Et un programme nucléaire en développement et pour partie en exploitation. Il y a 4 réacteurs nucléaires prévus et certains sont déjà en exploitation. Donc ce pays est à la pointe parmi les pays arabes du Golfe, au Moyen-Orient, en termes de diversification énergétique vers renouvelables et nucléaires, et plus tard, à plus long terme, hydrogène. Et par ailleurs, ces pays, ces mêmes pays arabes du Golfe, doublent cette diversification énergétique d'une diversification de leur économie hors secteur énergétique.
D'accord. Mais globalement...
Dans la diversification, il y a deux aspects. Il y a l'énergie et l'économie hors énergie.
D'accord.
Par exemple, le projet Arabie Saoudite 2030, lorsqu'on veut développer le tourisme, ce n'est pas une diversification énergétique. Lorsqu'on veut développer le secteur minier, on est hors secteur de l'énergie.
Bien sûr.
Lorsque l'on développe la pétrochimie, très importante dans la région, on est hors secteur de l'énergie. Donc ces pays ont des plans pour diversifier leur secteur de l'énergie. Donc pas faire seulement pétrole et gaz, faire autre chose, tout en continuant à faire pétrole et gaz, et à développer leur économie en dehors du secteur de l'énergie. Il y a deux aspects dans cette diversification.
Mais ce sera ma dernière question, Francis Perrin, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, allez, on va dire une petite dizaine d'années, on se disait, transition énergétique, oh là là, on se demande comment ça va se passer. Et finalement, on se rend compte que ces pays arabes, alors ils sont tous très très différents les uns des autres, hein, pour des raisons qui sont absolument multiples, mais on se rend compte que finalement, ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que les initiatives sont là, les engagements sont là, c'est quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet état d'esprit qu'on avait un petit peu avant, on se disait, oula, comment ça va se passer ? Et bien finalement, ça se passe plutôt bien.
Qu'est-ce qu'il faut pour une diversification énergétique ?
La pensée des hommes.
Il faut une volonté politique.
Oui, c'est ça. Ouais.
Au plus haut niveau. Elle existe.
Ouais.
Il faut évidemment les atouts pour les énergies renouvelables, et notamment en termes d'ensoleillement, évidemment, là, on est à des niveaux records, donc de très haut rendement. Il faut de l'espace, il y a des superficies désertiques, donc les voisins ne vont pas protester, c'est important. Pensez à l'éolien en France, qui entraîne énormément de contentieux devant les tribunaux administratifs, parce que ça fait baisser la valeur de l'entreprise, etc. Bon. Et il faut un dernier élément, il faut du capital.
Oui.
Le soleil, on ne le paie pas, mais le coût d'investissement d'une centrale solaire,
c'est énorme.
C'est très cher.
Bien sûr.
L'éolien, on ne paie pas le vent, mais le coût d'investissement d'un parc éolien. Or, ces pays ont le capital parce qu'ils ont les revenus pétroliers et gaziers. Pourquoi est-ce que ça se développe plus rapidement les renouvelables au Moyen-Orient qu'en Afrique ? Parce que les pays africains, certes, ils ont le soleil, certes, ils ont l'espace, mais le capital.
Bien sûr.
Donc, tout et ça, c'est essentiel.
Absolument. Merci Francis Perrin, merci pour l'ensemble de ces explications. On va rester dans le monde arabe, plus précisément au Maghreb, au Maroc, avec cet élément tout à fait intéressant qui nous est venu de Banque Al-Maghrib, qui a annoncé, c'était en début de semaine, la baisse de son taux directeur de 25 points. Donc c'est une baisse qui peut atteindre un taux de 2,75. Ce baisse des taux d'intérêt qui est intéressant parce que c'est un signe indicateur d'une économie, mais surtout une inflation qui est sous contrôle. Je vous propose d'entendre sur ce point les explications de l'économiste Mehdi Fakir.
Une banque centrale ne réagit pas sur les aspects économiques. La politique économique demeure l'apanage de l'exécutif. Et maintenant, lorsque l'inflation, qui est un indicateur qui permet un petit peu de mesurer le niveau de confiance, parce que si l'inflation est à des niveaux qui sont incontrôlables ou difficilement contrôlables, ce n'est pas du tout un indicateur positif sur le plan économique. C'est quelque chose qui touche premièrement le pouvoir d'achat et de facto touche la création de valeur ajoutée à travers la consommation intérieure. Maintenant, lorsque ces niveaux sont stables, c'est un indicateur positif. C'est-à-dire aujourd'hui que les ménages devraient consommer plus, qu'il y aurait une meilleure marge en matière de création de valeur ajoutée. Et de facto, l'obstacle, je dirais, monétaire ne devrait pas être observé par les opérateurs économiques. Le signal, c'est que l'inflation est sous contrôle. Donc aujourd'hui, c'est l'un des indicateurs positifs sur le plan économique, mais ce n'est pas l'indicateur.
Merci Mehdi Fakir, merci pour ces éléments explicatifs sur cette économie marocaine qui réussit aujourd'hui à juguler l'inflation qui a été si difficile à vivre ces derniers mois. Tout cela, ce sont d'excellentes nouvelles. Voilà, on se quitte sur ces mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale.